Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de Live Mentor, le podcast qui donne des conseils concrets d'entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode, donc on va clôturer cette saison en beauté avec une invitée exceptionnelle. Bonjour Marie-France Cohen.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de la marque Bonpoint, du concept store Merci et plus récemment de la marque Démodé. Vous avez 76 ans, je crois. Alors, je me permets de le dire parce que le thème de cet épisode, c'est comment entreprendre tout au long de la vie. Et il n'y a pas plus idéal que vous pour en parler, puisque vous n'arrêtez pas de lancer de nouveaux projets et de rebondir à tous les âges de la vie, même après celui de la retraite. Et l'idée, c'est justement de voir comment faire si on vend son entreprise pour ne pas s'arrêter là, pour se réinventer et continuer. Mais commençons par le commencement. On est au début des années 70 et vous créez Bonpoint, une marque de vêtements pour enfants qui va devenir culte. Comment et pourquoi l'avoir créée? Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette aventure?
Bien sûr, parce qu'à cette époque-là, la mode pour enfants était soit un très grand classique, comme nous on est habillés quand on était petite, soit une mode très descendue des adultes qui ne me plaisait pas. Moi, j'ai eu trois enfants, trois garçons. J'étais d'une famille de six filles et deux garçons, donc de 8 enfants, donc j'ai eu des sœurs qui ont eu des petites filles, etc. Et en fait, on s'est mis à dessiner, les vêtements qui me paraissaient ce dont j'avais envie, c'est-à-dire des vêtements qui étaient issus de tout ce que j'aimais en Angleterre, aux États-Unis, des voyages et de ce que ça m'inspirait pour mes propres enfants.
Et comment est-ce que vous avez créé cette marque? Comment ça s'est passé concrètement?
C'est comme tous les débuts dans sa cuisine. Là, c'était vraiment les concierges du quartier qui tricotaient, qui cousaient. C'était des petites artisanes qui venaient. Enfin, voilà. Et puis petit à petit, il n'y avait pas l'équivalent de Bonpoint à l'époque. Et donc, petit à petit, le succès a commencé et on s'est organisé. On a une autre dimension. Et puis mon mari est venu nous rejoindre pour mettre de l'ordre dans tout ce qui était le manque d'argent. donc voilà, donc on était très complémentaires à Bernard et moi. Au début, il y avait ma soeur, j'étais toute seule, après j'ai fait venir ma soeur aînée. C'était très familial. Voilà. Et donc, petit à petit, ça a eu beaucoup de succès. Et donc, ça nous a permis de nous agrandir et de passer les étapes financières, les fins de mois de juillet où mon mari gérait le découvert avec beaucoup de brio et de sérieux. Donc, les banques ont continué à nous suivre. Mais je pense qu'on a gagné très bien notre vie le jour où on a vendu notre affaire. Mais on a eu tout le long de cette vie professionnelle un bonheur exceptionnel que je ne changerais pas pour aucune autre formule, c'est-à-dire la liberté.
C'est très juste de dire que pendant toute cette aventure, vous viviez modestement et ça vous suffisait. Vous étiez bien comme ça, l'argent est venu quand vous avez vendu, mais comme quoi on peut faire un projet pendant 32 ans en l'occurrence et que le gain financier n'est pas la priorité.
Le centre de notre projet, c'était la passion de faire, la recherche du bonheur, de travailler avec des gens qu'on aimait, de pouvoir s'occuper de nos enfants, parce qu'au début de notre histoire, on est un peu atypique par rapport à aujourd'hui. Moi, je me suis mise sur un vrai rythme professionnel dans les années 80, parce qu'avant, j'ai passé toutes les vacances scolaires avec mes enfants, etc., y compris mon mari. Donc, on avait un slow business au départ, qui était très exceptionnel, parce qu'il était unique en son genre. Et je pense que le bonheur qu'on avait à faire, la liberté qu'on s'accordait, parce que quand on changeait, qu'on raccourcissait, qu'on rallongeait les robes, qu'on décidait que maintenant c'était comme ci ou comme ça, personne ne nous disait, il n'y avait pas un commercial qui nous disait « Ah mais non, ça ne se vend pas, il faut faire comme l'année dernière ». Donc là, on avait la liberté totale. Et la liberté, ça a un prix évidemment, mais c'est le bonheur absolu, c'est le comble du bonheur.
Et vous avez fait ça pendant 32 ans?
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez vendu?
Au bout de je ne sais pas combien tième collection, vous devez refaire des barboteuses, des robes, des machins, vous savez tout ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Place aux jeunes, vous voyez. Et puis en plus, on était arrivé à faire de notre affaire, enfin une affaire rentable en sachant calculer les marges. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire la qualité optimale, je ne regardais pas le prix des tissus. Donc, si vous voulez, il y avait tout ce côté passionnel qui a fait un très joli résultat. Et en même temps, au niveau de la rentabilité, ce n'était pas faire de l'enfant. De toute façon, je dirais qu'à tous les gens qui veulent gagner de l'argent, faire de l'enfant, ce n'est pas la solution. Hein. C'est vraiment la façon la plus difficile de gagner de l'argent, sauf à faire, au contraire, une marque enfin, très, très grande quantité, très peu chère. Mais voilà.
Et alors, quand vous vendez Bonpoint, vous avez 57 ans, votre mari en avait 60. Vous vous sentez jeune et encore pleine d'idées pour monter d'autres projets. Vous avez bien raison. Donc, vous, vous sentez tout de suite qu'il faut repartir dans quelque chose.
Ah ben moi, j'avais vraiment, quand, parce qu'on ne décide pas comme ça du jour au lendemain de vendre l'histoire d'une vie. Ah, c'est vraiment de notre vie. Voilà. Et donc, moi, je savais que, personnellement, je ne peux pas vivre sans projet, sans créer, sans entreprendre, sans les autres, etc. Donc, mon mari avait moins cette sensation-là parce qu'il avait l'impression que, tout d'un coup, ça allait être... Mais moi, faire des voyages, cultiver mon jardin, j'adore les jardins passionnément, mais j'adore ne pas avoir le temps de cultiver mon jardin parce que je ne suis pas jardinier.
Mais c'est intéressant, en fait, parce que c'est ce moment-là qui est capital où il ne faut pas se reposer sur ses acquis, c'est-à-dire qu'il faut célébrer la vente, il faut partir en vacances, il faut voilà, faire des choses qu'on aime, mais il faut quand même se remettre en selle quand on a cette âme d'entrepreneur, c'est ça?
Alors moi, le conseil que je donnerais là, fondamental, c'est d'avoir déjà, si on est un entrepreneur, vous avez des gens qui vendent et qui sont contents de s'arrêter, si on est un entrepreneur, comme disait l'autre, j'aime mieux les ennuis à l'ennui, parce que ça tient... quand vous êtes entrepreneur, vous avez des idées sans arrêt et tout. Et quand vous vendez votre affaire, il faut avoir déjà prêt le projet d'après. D'accord. Parce que sinon, vous dites se reposer, etc. Il y a quelque chose de très violent de vendre son affaire. Donc, il faut avoir la tête occupée à autre chose parce que sinon, c'est extrêmement violent.
Et en 2009, justement, vous imaginez le concept de Merci. Est-ce que vous pouvez nous en parler
Oui, c'est en fait, moi j'ai toujours eu l'extrême chance de ne pas m'occuper d'argent. D'abord, j'ai été élevée dans un monde où on ne nous parlait jamais d'argent. Donc, je suis vraiment nulle pour tout ce qui est argent. Je suis commerçante, je sais faire du succès, je suis conceptuelle, artiste. Mais l'argent, franchement, ce n'est pas mon sujet. Donc, une fois qu'on a vendu Bonpoint et qu'on l'a très bien vendu, grâce à mon mari en particulier, bon, grâce aussi à ce qu'on en avait fait, mais vraiment, je me suis dit, mais vraiment, le bonheur total après, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas pour l'argent, mais qu'on puisse participer, qu'on puisse rendre quelque chose à ce monde dans lequel on est, dans lequel on a la chance d'avoir tiré notre épingle. Donc, l'idée, c'était de dire... donner sans tendre la main, donner sans réclamer, c'est-à-dire, et se faire plaisir, parce que la première idée, c'était qu'est-ce qu'on va faire pour être nous bien. Donc là, c'était clair la réponse, continuer à faire ce qu'on avait toujours fait, c'est-à-dire entreprendre, rassembler, nous on a toujours fait des boutiques, mais on a fait des moyennes boutiques, on a fait une grande boutique juste avant de vendre Retournons. Mais là, on voulait faire vraiment mettre dans un même endroit. Donc, on a cherché un endroit avec 2000 mètres carrés, etc. Et là, de mettre tout ce que je n'avais pas pu faire parce que j'étais enfermée dans l'enfant. La femme, l'homme, la déco, le restaurant, enfin tout. Quoi. J'avais tout mettre dans cet endroit. Faire de cet endroit un endroit à succès. Et qui dit endroit à succès, au bout d'un moment, dit bénéfice, etc. Et là, faire ça totalement bénévolement. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent pour montrer le projet, qui était cadeau, c'était notre cadeau à Merci. Et on a ensuite travaillé tous absolument bénévolement. Et quand mon mari, qui est tombé malade, malheureusement, au début de l'histoire de Merci, j'ai continué un moment et j'ai vendu. Et l'argent a été à la fondation qu'on avait créée, qui est une fondation qui aujourd'hui est gérée par mes fils, mon fils en particulier Julien, qui gère cette fondation.
Donc, ça veut dire que l'idée de départ de merci, c'est la gratitude, c'est de dire merci à la vie.
L'idée de départ de merci, je ne voudrais pas du tout jouer la sainteté. L'idée de départ de merci, c'est d'abord qu'est-ce qu'on va faire qui va nous rendre heureux. C'est d'abord s'occuper de soi. Et moi, je savais que le fait de faire quelque chose pas pour soi, c'est le comble du plaisir. Je veux dire, quand vous donnez, vous recevez. Donc, et puis nous, on avait toute notre vie chez Bonpoint, travaillé avec Madagascar, qui sont des femmes qui avec des doigts de fée, qui nous ont aidés à réussir par leur travail de broderie, etc. Et donc, je savais aussi que c'était le deuxième pays le plus pauvre du monde. Donc, forcément, dans la misère générale, on a choisi Madagascar, c'est sûr. Voilà.
Et quand vous lancez merci, ou quand vous réfléchissez à merci, que vous en parlez à votre entourage, qu'est-ce que vous disent les gens?
Folle.
Oui, voilà, vous êtes normal, complètement fou.
Mon mari, il était moyen avec l'idée de faire quelque chose totalement gratuit. Tout. Mais je lui disais, mais ça va, voilà, on a ce qu'il faut là, plus qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Je veux dire, c'est voilà. Et puis, c'était très excitant. Moi, j'ai compris une chose, c'est que tout ce qui était philanthropique et tout ça, c'est toujours des gens la main sur le cœur. Dans la mode, c'est toujours un peu pas très sexy, pas très... Et nous, on s'est dit, enfin moi, mon idée, c'était de dire, je veux faire un endroit mais vraiment, je veux y aller tellement c'est bien. Et après, by the way, quand j'ai payé, je sais que les bénéfices ne vont pas dans la poche du truc. Mais on n'a pas du tout communiqué sur la philanthropie au départ, à part le nom qui dit déjà quelque chose. Mais si vous voulez, l'idée, c'était de dire, je ne fais pas ça pour faire... Je fais ça pour que ce soit super et que je déclenche l'achat. Pour des raisons pas philanthropiques, mais pour des raisons de se faire plaisir. Voilà.
Et vous avez vendu ensuite Merci en 2013.
Oui.
Et ensuite, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Je repars dans quelque chose de nouveau.
Exactement la même chose. C'est-à-dire que donc en 2013, je vends Merci. J'ai fait Merci grâce à des gens fantastiques. Grâce à ça, c'est que je mettrai dans une de mes compétences. C'est j'admire énormément le talent des autres. Ça ne me met pas du tout en danger, alors que j'ai beaucoup croisé dans ma vie professionnelle des gens qui ont peur du talent des autres. Et ça, aimer le talent des autres, c'est un talent. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous faites un groupe complémentaire de gens qui travaillent bien ensemble et qui sont talentueux et intelligents et doués, c'est une puissance exceptionnelle par rapport au talent d'une seule personne. Donc là, j'avais sélectionné une équipe sans qui le succès n'aurait pas existé. C'était une très 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 belle équipe dirigée par Jean-Luc Ladistria, qui est un ami et une formidable personne, voilà. Donc si vous voulez, on avait vraiment le meilleur du meilleur. Et donc quand ça s'arrête, une partie de l'équipe est partie de faire autre chose, etc. Et moi, j'avais chargé ma belle-fille de prendre la mode, de créer le secteur mode Merci, ce qu'elle a très bien fait. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc, quand on s'est trouvé devant quoi faire derrière, ça, c'était absolument évident. On a imaginé refaire quelque chose de plus féminin, parce que mon équipe première était des hommes, et il y avait des femmes aussi, mais les deux principaux, Jean-Luc et Daniel Rosenstrock, étaient donc bien, ils étaient vraiment, bien que nous travaillions ensemble, c'était quand même, il y avait une position très très, on avait à lutter pour faire pour faire venir un thème Liberty.
C'est ou
un
vrai
thème,
oui, c'est ça. Donc oui, l'envie de faire quelque chose de plus féminin.
De beaucoup plus féminin, ouais. de beaucoup plus décoratif, parce que chez Merci, on avait choisi de ne pas être décoratif. On avait choisi la fonction dans la maison plus que la décoration. Et donc voilà, donc on a fait des modés en faisant appel à des vrais artistes, un vrai peintre avec qui on a collaboré, des artisans artistes. Enfin voilà, c'était une autre histoire. Plus lente, plus slow business.
J'allais dire justement, pourquoi l'avoir appelé démodé ? Pourquoi l'avoir appelé démodé ?
Ben, c'est impertinent parce que si on a, moi toute ma vie j'ai entendu la mode, c'est pas la mode, etc. Et en fait, moi je sais par expérience avec mon long trajet que ce qui est beau ne se démode pas. Ce qui se démode, c'est la mode. Donc démodé, c'était démodé, mais c'est pour moi c'était un clin d'œil.
Donc c'est...
Parce que bien sûr, c'est pas démodé. On fait une décoration qui est dans l'air du temps. C'est pas comme chez ma grand-mère.
Mais ça reste en fait avec une vision de l'intemporel, du durable,
de la
lutter
beauté.
Contre tout ce qui est fast fashion et qui se périme tout de suite. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'à côté de ça, vous avez aussi des projets de décoration de boutiques, de restaurants. D'où vous vient cette envie d'entreprendre, parce que vous ne venez pas d'une famille d'entrepreneurs?
Ben si, d'une certaine façon, parce que d'un côté, du côté de ma mère, c'était pas du tout des entrepreneurs, c'était plutôt des aristofauchés qui étaient très bien élevés, mais complètement... à côté de la plaque pour tout ce qui était entreprise. Mais du côté de mon père, c'était une famille, ma grand-mère qui était magnifique, une femme extraordinaire. C'était une petite Aveyronnaise qui était montée de l'aïeul et qui avait avec intelligence, au bout du compte, elle a envoyé mon père à l'école des Roches, qui était l'école des Nantis, etc. Elle était dingue. Donc de ce côté-là, l'entreprise, si tu veux, c'était des commerçants, quoi. C'était des gens qui savaient travailler dur et observer la société autour, enfin, et répondre à une demande. Ça c'est quelque chose qui m'a été transmis. Et c'est vraiment cette complémentarité de ces deux parents différents et en même temps ayant un même idéal. Et on a été élevé dans cette idée, dans une douceur, une sévérité, mais une douceur rassurante qui a fait que, je pense que quand on a été rassuré, il y a plein de cas de figure. Mais moi, je sais que j'ai un caractère optimiste absolument indécrottable, j'en ai même eu honte par moment d'avoir tellement la sensation de savoir où je devais aller.
Super pour entreprendre.
Je faisais semblant de douter pour faire plus un télo, quoi. Mais j'avais des évidences. Mais en même temps, ça paraît simplé d'avoir des évidences. Il y a tellement peu de choses évidentes. Mais à part ça, là aussi, le fait d'avoir été sécurisé vous donne aussi des ailes. Je pense, on nous a toujours dit que tout était possible. Si tu veux, tu peux. Enfin, des choses un peu bêtes, quelque part, parce que il ne suffit pas de vouloir non plus. Mais c'est vrai que l'optimisme, c'est un cadeau, vraiment.
Génial. Et comment vous faites pour vous réinventer? Parce que j'imagine qu'il faut quand même que pour se réinventer, il y a des choses qu'il faut remettre en question, qu'il faut lâcher, qu'il faut
tout
laisser.
Tout le temps. C'est pour ça que je m'entoure toujours de gens plus jeunes. Parce que si vous voulez, à 76 ans, même si vous avez du goût, même si vous êtes créative, etc., vous pouvez faire pour vous, mais vous ne pouvez pas proposer à un marché où la moyenne d'âge est plutôt autour de 25 ans que vous ne pouvez pas proposer des choses qui soient has-been. Il faut que ce qu'on fasse, les jeunes, enfin des gens, c'est pas le centre de la clientèle qu'on vise, les 25 ans, mais néanmoins, ça nous fait vraiment plaisir et on a beaucoup de gens très jeunes qui viennent acheter des choses de notre choix. Donc, c'est très, très important le mélange des générations.
Et le mélange des talents aussi, la complémentarité.
Le mélange des talents, c'est fondamental.
Ouais.
Mais le mélange des âges, par exemple, parce que quand vous êtes créatif, notre discours ne tient que pour les gens créatifs. Parce que moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'imaginer, de créer, voilà. Donc, quand vous êtes créatif, vous avez besoin d'avoir à vos côtés quelqu'un quand même qui ne dit pas le contraire de vous. Parce que si vous me dites que vous détestez le rouge et que moi j'adore, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, dans la personne de Stéphanie, qui est donc mariée à mon deuxième fils.
Qui travaille avec vous pour démoder.
Avec qui je suis associée pour démoder. Ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'elle a l'âge qu'elle a, c'est-à-dire l'âge d'être ma fille. Mais on voit, quand elle... On voit les, enfin, quand ce qu'elle aime, ça m'emballe. Ce que j'aime, je vois bien que ça l'emballe aussi. Donc, il y a une possibilité, une fluidité, même s'il y a des différences, on n'est jamais pareil. Mais il y a une fluidité qui fait qu'on ne tire pas U à dia. Moi, je pense qu'il faut vraiment quand même trouver des gens qui tirent dans le même sens. Quand on commence à tirer dans tous les sens, ce n'est pas très productif.
Oui, en fait, c'est... une sorte de garde-fou aussi pour vous garder justement éveillé et toujours avec cette envie
c'est
de...
C'est pas un garde-fou, c'est une nécessité. Moi, ça me démoralise quand je vois certaines de mes amies qui sont là en train de... J'ai l'impression... Moi, quand on me parle des vieux, je me dis les pauvres, alors que je me sens pas du tout concernée. C'est terrible. Mais c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en même temps, il va falloir que j'apprenne aussi à calmer un peu l'enthousiasme, parce que, bon...
Ce que j'allais vous demander, justement, si vous avez vu d'autres entrepreneurs s'arrêter à un moment donné et être triste de ne pas se remettre en selle, parce que parfois,
oui,
c'est difficile
beaucoup,
de...
Beaucoup. Mais il faut beaucoup de modestie pour continuer à fonctionner quand on a un certain âge. Il faut comprendre qu'il faut lâcher certaines choses. Vous pouvez pas travailler avec des gens jeunes si vous leur laissez pas l'espace. Il faut savoir avoir la modestie de s'effacer d'une certaine façon, d'exister par d'autres choses parce qu'il y a des choses que l'âge vous apprend, etc. Mais il faut vraiment savoir laisser la place. C'est ça, c'est la chose que tout le monde ne sait pas faire et qui chaque jour demande un travail. Quand on a été patron, quand on a été celle qu'on écoute, etc., il faut vraiment savoir le faire, c'est un exercice.
Et que vous apprenez à faire comment ?
Tous les jours, en avalant des couleuvres.
Ah oui, d'accord. Et quel conseil vous donnez ?
Et en tirant la conclusion que cette couleuvre, je devais l'avaler. Parce que si vous voulez, ce n'est pas toujours la faute des autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend aussi quand on a... Moi, j'ai trois fils et avec trois belles filles, c'est aussi un exercice. Et donc, Stéphanie, avec qui je travaille, donc c'est le même exercice, c'est-à-dire pas penser que même si on a des bonnes intentions, on a toujours raison. Voilà.
Ouais, c'est une aventure humaine, en fait, c'est ça que
vous dites. C'est une aventure humaine, bien sûr.
Ouais, ouais. Comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un parcours, en fait, et que
c'est
pas un succès à un moment
c'est
donné.
C'est un parcours, et je pense que moi, je dirais à tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, la priorité, quelle que soit l'entreprise, la priorité, c'est de faire un lieu où les gens sont heureux. Parce qu'il y a tellement de détresse aujourd'hui dans les entreprises, dans les grosses boîtes, etc. Les gens sont maltraités, pas considérés, pas responsabilisés, etc. Et tout ça, c'est vertical. Si vous avez quelqu'un de bienveillant, de juste, avec de l'humain à la tête d'une entreprise, ça se ressent dans toute la chaîne des différents stades en dessous. Et à contrario, quand vous avez quelqu'un de moche, quelqu'un qui traite mal les autres, et tout le monde se met sur le même mode très rapidement.
Alors, vous me devancez justement, parce que ma prochaine question, c'était de savoir quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance. C'est quoi les ingrédients essentiels pour tenir dans cette voie qui est si particulière que l'entrepreneuriat ?
Pour moi, je vais parler en mon nom, je ne peux pas parler pour les autres. Vous avez des gens qui sont très talentueux et dont l'argent, par exemple, est la passion et qui savent très bien faire de l'argent et tout. Et je n'ai aucun mépris pour ça. Mais je sais que moi, dans mon histoire et dans beaucoup d'histoires artistiques, si vous voulez, il ne faut pas que la passion soit l'argent parce qu'au début, non seulement vous ne vous rémunérez pas, vous ne faites pas les choses. Il faut avoir la passion, il faut avoir l'énergie, l'optimisme peut-être. Et encore, je vous dis ça, alors que je suis amie avec Jean-Louis de... Oh, excusez-moi, voilà, ça y est, c'est Alzheimer.
Non.
des hôtels.
Coste.
Coste, oui. Voilà, Jean-Louis Coste. Et un jour, je lui dis, mais et pour moi, l'extraordinaire succès, son extraordinaire succès, je l'imaginais très optimiste, très bon. Et je lui dis, mais toi, Jean-Louis, tu es optimiste. Il me dit, mais moi, je ne suis pas du tout optimiste. Moi, je pense toujours que ça va pas se faire et tout. Donc, je prends le meilleur architecte, le meilleur endroit, le meilleur designer, le meilleur. J'assure. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mm-hmm. Il faut bien se dire ça. Il y a d'autres modes. Moi, c'est sûr que si vous voulez, je n'ai jamais pensé à l'argent au départ. Mais j'ai toujours aimé le succès. Donc, l'un vient avec l'autre après. Mais dans un premier temps, si vous voulez, l'idée, c'est de faire le mieux possible, la plus belle qualité possible, d'avoir le plus de retours de gens emballés, parce que quand les gens aiment, ça vous dit qu'ils vous aiment. Donc, c'est toujours beaucoup autour du bonheur hein, dans mon histoire. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il faut avoir de la générosité. Je me méfie toujours des gens qui sont radins, des gens qui cachent leur copie, des gens qui vous demandent d'abord tous leurs droits avant de voir leurs devoirs, etc. Je me méfie de ce manque de générosité. Je pense que dans le travail, il faut qu'il y ait de la générosité. Il faut réclamer son dû, ce que je ne savais pas faire, mais il faut aussi savoir faire. Voilà. Il faut savoir, tu vois, pas regarder sa montre à un moment quand on est dans une charrette. Il faut savoir. Et voilà. Et dans l'autre sens, celui qui profite de cette générosité doit avoir en retour une générosité pour laisser prendre des jours, pour laisser prendre. Voilà. Pour savoir aussi rémunérer. Chacun, voilà. Moi, la chose qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'on était dans une économie très, très, très serrée, c'était aujourd'hui, j'aimerais, avec, si c'était à refaire, de faire la même entreprise, mais en mettant en participation les gens avec qui on travaille. Voilà, ça, je trouve que chacun ait un peu de sa part. C'est normal que celui qui passe ses jours, ses nuits, ses angoisses, etc., soit pas au même salaire que celui qui rentre chez lui avec son salaire assuré et sa sécurité. Mais c'est pas normal que quand une affaire dégage des bénéfices, qu'il n'y ait pas une participation.
Oui, c'est une façon de valoriser aussi le travail de tous ceux qui...
C'est une façon de d'être efficace et de rendre les gens, enfin moi, voilà.
Impliqués, bien ouais. Sûr. C'est quoi la prochaine étape pour vous?
La prochaine étape, c'est apprendre à ne pas entreprendre.
Ah bon? Mais ça, c'est pas possible, ça, Marie-France.
Non, je crois que c'est pas possible. Je crois que j'ai continué, mais en même temps, je me dis, bon, il y a un moment, tu vois, ce qu'il faut apprendre, c'est c'est une dernière ligne droite, donc à un moment de la vie. Donc, il faut réfléchir à ce qui est ce qui vous rendra le plus heureux. Moi, je reviens à ça. Je pense que pour vivre comme il faut, être agréable aux autres et agréable à soi-même, c'est trouver une forme de sérénité et de plaisir. Voilà. Mon idéal serait d'arriver, je ne sais pas si je vais y arriver, à créer un slow business, c'est-à-dire, et aussi à être là pour... les gens demandent beaucoup... envie de savoir, de parler, etc. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est intéressant de se dire qu'on peut traverser la vie. Et là, vraiment, je pense que si vous voulez, nos parents et encore moins nos grands-parents, ils ont travaillé aussi quand ils étaient sortis de la misère, travaillaient beaucoup. Mais les gens qui étaient des bourgeois, etc., travaillaient beaucoup moins que les jeunes d'aujourd'hui qui sont avec leur ordinateur, corvéable à merci, jour et nuit, etc. C'était pas du tout le même rythme, les vacances. Donc je pense que ce serait très intéressant d'arriver à trouver un système économique qui puisse à la fois rémunérer correctement, mais peut-être, bon, on n'est pas en train de parler de devenir milliardaire, mais rémunérer correctement des gens qui travailleraient à un rythme humain, de pouvoir avoir un temps moins stressant, quoi. Moi, je suis très inquiète de voir comment les jeunes couples, les enfants, tout ça, c'est incroyablement stressant. Donc, je pense que ça serait très important d'essayer de réfléchir à comment on peut gagner sa vie sans passer dans la moulinette de ce temps qui manque toujours, quoi. Ouais.
Alors, j'ai trois petites questions pour finir. Est-ce que vous pouvez me raconter un échec dans votre parcours d'entrepreneur et me dire ce qu'il vous a apporté?
Et ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vivre là avec Démodé. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, sur le plan de la réflexion, je suis toujours très... je me suis dit, bon, aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses autrement qu'avec Internet. Internet est quelque chose qui m'est complètement étranger à tout point de vue. C'est-à-dire, j'ai été élevée dans l'idée de, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, l'exposition médiatique qui est nécessaire. Parce que pour que les choses marchent, il faut raconter des histoires, se montrer, parler aux autres comme s'ils étaient votre meilleur ami, etc. J'aime beaucoup les gens, mais je n'ai pas envie de faire rentrer tout le monde dans ma vie privée. Ensuite, ça demande un renouvellement des produits à une cadence qui n'est pas du tout celle qui peut être quand on s'adresse à des artistes, qu'on fait fabriquer quelque chose, etc. Donc, si vous voulez... Là, on a fait un très joli site internet en prenant la meilleure photographe, tout était sublime. Et puis après, moi, je voyais bien ça rester comme ça pendant un an, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, si vous voulez, on a pris une toute petite boutique qui devait être une vitrine du site internet. Et ce que je sais faire, c'est la boutique. Donc, la boutique s'est mise à prendre de la place. Et le site internet, c'est le... projet, mais ça, je vais le passer entre les mains de Stéphanie parce que je sais que ça n'est pas ma compétence.
C'est-à-dire que c'est la boutique qui cartonne.
C'est la boutique qui marche, qui cartonne, n'exagérons rien, mais que tout le monde adore, etc. Et le site, on est là, c'est poussif, on ne fait pas les photos quand il faut les faire. On n'est pas sur le site. Alors que la boutique, ça devrait être le site.
Et donc, vous allez remanier tout ça?
Pas moi, je vais me mettre en conseil parce que je ne suis pas bête et que je suis quand même commerçante, je suis un sens artistique et je sais ce que je sais, mais je veux me mettre en conseil, il faut qu'on change le rapport.
Et qu'est-ce que vous vous dites dans les moments difficiles?
Vous parlez de moments difficiles.
D'entrepreneuriat.
En fait, moi, je me dis toujours que ça va, en fait, on va faire ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Je veux dire, on va trouver des solutions. Non, moi, je me dis qu'à un moment difficile, dans un moment difficile, on a tendance à penser c'est la faute de la du contexte, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute du mauvais temps, c'est la faute des autres, c'est la faute des concurrents, etc. Non, quand ça ne marche pas bien, c'est de votre faute. C'est que vous n'avez pas su vous adapter à un moment X, etc. Donc déjà, ne pas se dire que c'est de la faute des autres et du contexte. Et de comprendre dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui a ralenti, qu'est-ce qui fait... Et que voilà. Donc si vous voulez, déjà, il faut savoir analyser le moment et après voir ce qu'on a comme levier pour faire changer les choses. Et les leviers, là, il faut du courage. Au moment où ça va moins bien... C'est arrivé à bon point dans les années 90, après avoir monté, stagné, ça s'est redescendu. Donc, on a commencé par penser que c'était de la faute de toute la concurrence, de tous les copieurs, etc. À un moment, moi, j'ai dit non, c'est notre faute. Et à partir du moment où vous vous dites, c'est ma responsable, c'est moi qui suis un problème, vous pouvez intervenir. Si c'est de la faute des autres, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, on a été... Alors là, Bernard a été génial parce que, si vous voulez, on s'est dit, bon, c'est un moment difficile parce que ça marche moins bien. Mais là, il faut qu'on fasse un truc complètement nouveau. On a tout chamboulé, etc. On a investi de l'argent qu'on n'avait pas, etc. Parce que c'était le moment où il fallait le faire. Il faut surtout pas se mettre dans une position de victime. C'est la pire, celle-là.
Et au contraire, se remettre en cause et rester très pragmatique, j'ai l'impression.
Si c'est de la faute des autres, vous ne pouvez rien faire. Il faut se mettre sur soi-même et comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est que sur vous que vous pouvez changer quelque chose.
Est-ce qu'il y a un entrepreneur que vous admirez plus que tout?
Alors, l'entrepreneur que j'admire plus que tout, il y a beaucoup de gens que j'admire. J'en parlais de Jean-Louis Coste, etc. Je vais dire que moi, l'entrepreneur que j'admirerais, c'est celui qui aurait su trouver un équilibre entre une vie privée, une vie intellectuelle, une vie artistique, etc., et son business. Parce que je pense que, si vous voulez, cette passion nécessaire au succès, elle est très dangereuse parce qu'elle dévore tout.
Ça, c'est un vrai sujet, hein, l'équilibre vie pro, sujet. Vie perso, c'est très compliqué, surtout quand on entreprend.
Oui, c'est un vrai sujet et je pense que le vrai succès, c'est ça. C'est de savoir poser son crayon pour s'occuper de ses enfants. Nos enfants, c'est supposé être la chose la plus importante de notre vie. Et en fait, nos enfants, ils sont abandonnés complètement. Ils vont à la crèche à un mois et demi ou deux mois. Quand ils sont en vacances, ils sont insupportables parce qu'ils voulaient... Je le vois avec les petits-enfants, je veux dire, vous voyez, ils demandent de la présence, donc ils deviennent insupportables. Et puis comme vous culpabilisez, bon, au bout d'un moment, c'est ingérable, il faut les mettre dans un club, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut, ce que j'admire, c'est les gens qui arrivent à trouver cet équilibre.
Oui, à être alignés en fait, entre leurs valeurs, leur vie personnelle, leur passion,
leur business. Et comprendre leurs priorités, les enfants, c'est une priorité. Ça dure 12-13 ans après. Les enfants, ils n'ont plus l'idée, c'est de se tirer. Donc, ils ont besoin de vous vraiment. Ils ont besoin de vous toujours après. Mais ce que je veux dire, là où c'est vraiment, vraiment important, c'est dans les petites années. Donc, si vous les faites élever par quelqu'un d'autre, c'est dommage.
C'est dommage, d'accord. Donc, pas de nom d'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui arrivera à faire tout ça, mais
c'est
pas de nom.
C'est l'entrepreneur, si, il y en a sûrement, mais je veux citer personne en particulier. D'accord. Parce que ceux que je connais qui ont très, très, très bien réussi, en général, ont un peu sacrifié leur... voire beaucoup sacrifié leur vie à côté.
Ouais. Bah, merci infiniment, en tout cas, Marie-France, d'avoir partagé votre expérience et ce parcours qui est tellement inspirant. C'est le dernier épisode du podcast. Donc, au nom de toute l'équipe de Live Mentor, je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans votre parcours d'entrepreneur, de porteur de projet. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère qu'il y aura une autre saison à venir, peut-être. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez entendre, là où vous avez besoin de conseils. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bonne route. Au revoir.
À bientôt, au revoir.